Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cette émission du magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Réfléchir sur la mise en application de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité dans le contexte de la RDC et proposer des priorités d'action à mener en vue d'améliorer la situation des femmes en période de conflit et post-conflit. Tel a été l'objectif des 3 jours des journées portes ouvertes organisées à Kinshasa par le système des Nations Unies. Vous suivrez dans cette édition les réactions du leadership de la MONUSCO et de l'ONU Femmes en rapport avec les avancées réalisées, ainsi que les leçons apprises et les défis qui restent face à la mise en œuvre de cette résolution en République démocratique du Congo. Autre journée, c'est la journée internationale zéro discrimination, célébrée le 1er mars depuis son institutionnalisation en 2014 dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du sida. Cette année, la célébration de l'événement a été sous le thème « Supprimer les lois qui font du mal, créer des lois qui donnent des moyens d'agir ». Et en RDC, l'ONU SIDA, UCOS Plus, en partenariat avec les ministères de la Justice et des Droits Humains, se sont mobilisés pour réfléchir sur cette problématique. Dans cette édition, notre invitée, c'est Madame Mathilde Migo, spécialiste des droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mathilde Migo a reçu le 3 mars 2022 le prix Femmes Avenir 2022 décerné en Espagne et qui récompense les femmes engagées dans la lutte pour la promotion des droits des femmes. La lauréate dédie son prix à toutes les femmes victimes des atrocités de tout genre et aux femmes courageuses qui militent pour les droits de l'homme. Voilà tout pour la charpente de cette émission. Tout de suite, le développement.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche. À l'initiative du système onusien représenté par la MONUSCO et ONU Femmes, les organisations féminines et juvéniles de la société civile congolaise ont été conviées du 1er au 3 mars 2022 à des journées portes ouvertes 2021 sur la résolution 1325. La représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Bintou Keïta, a mis en évidence les progrès réalisés en RD Congo dans la mise en œuvre de cette résolution. Suivez la chef de la MONUSCO.
En République démocratique du Congo, où les femmes ont mis en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, y compris avant sa formalisation au Conseil de sécurité, des progrès importants ont été enregistrés. En matière de participation des femmes aux initiatives de paix tant formelles qu'informelles et au niveau local ou communautaire. Au niveau local, personne ne dort tant qu'il n'y a pas la paix et la sécurité. C'est la première demande. S'agissant de la représentation accrue des femmes à des postes de prise de décision et dans le gouvernement actuel du Premier ministre Samalou Kondé, on est passé de 17 à 27%. On n'est pas encore au petit 3-0. Mais c'est un immense progrès. En matière de prévention et protection des femmes contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de lutte contre l'impunité, là aussi, je vois pas mal de progrès. Je vois des sanctions qui sont données et dans le bon sens du terme. Et malheureusement, ce que je vois, c'est que ça n'est pas relayé quand il y a ces sanctions. On ne voit que le côté où l'impunité est très grande, mais là où il y a des punitions, je crois qu'il faut les relayer. Parce que c'est comme ça que ça encourage de dire qu'il y a des progrès. Et concernant la participation des femmes aux efforts de consolidation de la paix, de réforme des secteurs de la sécurité et des programmes de désarmement, démobilisation et de réinsertion. Hier, je suis venue saluer les femmes dans la salle de la MONUSCO et quand j'ai vu le personnel en uniforme, je me suis dit oui. La diversité et avoir les femmes et les hommes représentés dans la préparation de ces journées portes ouvertes, je dis bravo à la République démocratique du Congo, parce que dans beaucoup d'endroits où j'ai été, on se tient entre femmes et on enlève les hommes. Mais la vie, c'est et les hommes et les femmes. Donc bravo aux hommes qui sont ici pour la masculinité positive.
De son côté, le représentant résident de l'ONU Femmes en RDC, qui a également pris une part active à ces journées portes ouvertes, a mis l'accent sur la nécessité de l'implication des femmes dans la recherche des solutions durables au conflit. Il a indiqué que le contexte préélectoral actuel devrait être saisi pour renforcer le plaidoyer en faveur d'une participation accrue des femmes dans les institutions de décision. Monsieur Adama Moussa.
Au terme des leçons, je voudrais citer juste deux. Le premier constat, c'est que toutes les solutions durables aux différents conflits passent nécessairement par l'implication effective des femmes. Ça, c'est un premier constat et toutes les analyses l'ont démontré. Le deuxième constat, c'est malgré cette importance des femmes, elles restent encore marginalisées, tout simplement parce qu'elles ne sont pas considérées comme parties au conflit. Vous convenez avec moi que quand on parle de négociation, on parle de parties au conflit. Malgré le fait que les femmes soient les cibles privilégiées, les victimes principales, elles ne sont pas conviées de facto parce que simplement elles ne sont pas parties au conflit. La recrudescence des différentes attaques, le contexte actuel préélectoral nous invite davantage à mobiliser nos efforts pour faire en sorte que ce moment propice de phase préélectorale puisse être utilisé pour engager un véritable plaidoyer autour de l'opérationnalisation en ce qui concerne l'axe participation pour une représentativité effective. Le message, c'est que malgré le fait qu'on a une loi sur la parité, le niveau de représentativité des femmes reste encore faible, même si des efforts ont été faits. Je voudrais ici féliciter le gouvernement et les organisations de la société civile par rapport aux efforts et aux avancées dans le cadre de la mise en œuvre de la première génération, mais aussi saluer que la RDC ait une deuxième génération de plan d'action, encourager les acteurs à poursuivre la dynamique et surtout réaffirmer encore une fois, si besoin est, l'engagement solennel de l'ONU Femmes de pouvoir accompagner l'ensemble de ce processus.
L'ONU-SIDA s'en va en guerre contre les lois discriminantes. C'est ce qu'on peut retenir de la célébration de la Journée internationale zéro discrimination de cette année. Elle a été célébrée sous le thème « Supprimer les lois qui font mal, créer des lois qui donnent des moyens d'agir ». La journée est célébrée le 1er mars depuis 2014. Jeff Opela, reportage.
Abolissons les lois discriminatoires, adoptons des lois protectrices, c'est les thèmes retenus cette année pour la célébration de la Journée internationale zéro discrimination. Cette journée a été célébrée mardi 1er mars dans les locaux du programme national multisectoriel des luttes contre le VIH-SIDA. À cette occasion, l'ONU-SIDA met l'accent sur la nécessité urgente d'agir contre les lois discriminantes en mettant un terme aux inégalités selon sa nouvelle stratégie 2021-2026. Supprimer les lois qui autorisent la discrimination et la stigmatisation, c'est donc l'objectif poursuivi cette année. À la place, proposer des réglementations et des programmes qui doivent être mis en place pour lutter contre les lois, les mesures et les attitudes stigmatisantes et discriminatoires. Aussi, promouvoir l'accélération et l'élargissement des actions de lutte contre les deux phénomènes liés au VIH en RDC, et cela sous les leaderships du gouvernement congolais. À travers cette célébration, la démarche de l'ONU-SIDA, du gouvernement et d'autres parties prenantes s'effondre sur la prémisse posée par la Commission mondiale sur le VIH et le droit, rapport publié en juillet 2012, qui stipule que l'environnement juridique peut jouer un rôle puissant dans le bien-être de personnes vivant avec le VIH et celles de vulnérables au VIH. Cependant, il faut adopter des lois bien pensées, dotées des ressources nécessaires qui peuvent élargir l'accès aux services de prévention, de soins de santé, assurer la protection des droits de l'homme indispensables à la survie des personnes affectées ou non affectées.
Terminons cette page de nouvelles en allant au Nord Kivu avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'agence onusienne en charge du développement se dit satisfaite de l'entérinement et de l'endossement du document contenant le plan d'action prioritaire du gouvernement de cette province. Mais le PNUD recommande en même temps aux acteurs et partenaires du gouvernement du Nord Kivu de mettre en application ce programme. Maître Isaac Mouchokoro Kayaya, coordonnateur du programme au PNUD, l'a souligné la semaine dernière lors de la clôture d'un atelier de validation de ce plan d'action. Un extrait de ses propos recueillis par Mathieu Ilunga Chamboui.
Le PNUD est très satisfait par rapport à ça, ce qui fait qu'il reste maintenant le travail de mise en œuvre ainsi que la mobilisation des différents partenaires pour appuyer la mise en œuvre de ces documents qui a été aujourd'hui validé et endossé politiquement. Et c'est un travail du gouvernement provincial. Le PNUD n'était là que pour accompagner. Alors, ces documents couvrent tous les aspects de la politique au niveau provincial, organisés sur différents piliers, à savoir pilier gouvernance, la relance économique, la cohésion sociale, les infrastructures qui doivent être effectuées, mais aussi un pilier par rapport à la coordination de toutes ces activités. Donc c'est en conclusion de ces approches-là par thématique et par territoire que ces documents ont été élaborés. PNUD félicite en tout cas le travail qui a été effectué par les experts du gouvernement provincial et l'apport des partenaires au niveau des territoires qui ont apporté des considérations substantielles et qui ont été prises en compte dans ces documents.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En marge de la 10e réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Ungxia, s'était prêté aux questions de Radio Kapi dans cet entretien avec Donna Madimba.
Ungxia, bonjour.
Bonjour.
Les chefs d'État africains, signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba et les garants de cet accord vont se rencontrer à Kinshasa. Et ce soir, mardi, c'est plutôt une réunion préparatoire des chefs de gouvernement, vous, représentants des garants pour le compte de l'ONU. Quel est le sens que vous voulez donner aux assises de ce mardi?
Concernant cette réunion préparatoire, je pense que vous en êtes témoin pour dire que finalement on a fait une réunion de qualité, une réunion substantielle. C'est une bonne préparation pour le sommet qui aura lieu le 24. Cette réunion, c'est une occasion de passer en revue ce que les pays de la région des Grands Lacs ont fait avec l'accompagnement des institutions 40, les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, depuis le sommet de Kampala qui a eu lieu en octobre 2018 jusqu'en février 2022. C'est aussi l'occasion, sur la base de cette revue, de lancer un nouvel appel. Comment faire? Et donc, nous avons fait une bonne délibération. Nous allons soumettre nos conclusions, nos recommandations aux chefs d'État et de gouvernement le 24 pour avoir leur aval, leur consolidation. Et donc, à partir du 24 février, les pays signataires de l'accord cadre ainsi que les institutions 40 auront des orientations claires pour les années à venir.
Monsieur Ounzian, on s'est rendu compte que cette réunion préparatoire a beaucoup traîné par rapport au programme publié que nous avons reçu. La réunion aurait dû se terminer 3 heures plus tôt. Elle vient de se terminer presque 3 heures plus tard. Est-ce qu'il y a une raison à cela?
Je dois vous contredire pour affirmer que c'est une réunion de qualité. Les ministres, leurs conseillers, les ambassadeurs ont vraiment fait un travail de fond, par exemple pour les documents à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement pour adoption. On a fait un examen très détaillé, très en profondeur, et c'est cela qui a pris un peu plus de temps. Mais je pense que c'est une bonne ambiance pour livrer vraiment à nos chefs d'État et de gouvernement des produits de qualité.
Est-ce qu'on peut quand même avoir une idée?
Le président Tshisekedi, quand il a reçu l'UST, Bintou Keita et moi-même en audience, il a été très clair en ce qui concerne le sujet central de discussion de cette réunion de haut niveau. Promouvoir les projets transfrontaliers dans un cadre de paix et de sécurité mieux assuré.
Mais concrètement, justement, pour amener cette paix en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui sera fait dès après la réunion de jeudi des chefs d'État?
Je pense que s'il y a des attentes très très fortes, que ce soit du côté des populations ou des chefs d'État, c'est comment renforcer la coopération régionale pour assurer une meilleure neutralisation des forces négatives qui sévissent toujours à l'est de la RDC. Sur ce point, l'analyse est déjà très claire. Si des actions militaires s'avèrent toujours indispensables, une approche holistique repose sur un volet militaire complété d'un dispositif non militaire. Et aujourd'hui, les ministres ont surtout insisté sur la nécessité de travailler davantage sur ce dispositif nos militaires.
Bonziang, c'est peut-être caricatural ce que les médias disent. On sait que dès que l'accord d'Addis Abeba est arrivé, les M23 ont été rapidement neutralisés. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus moins dangereux pour la République démocratique du Congo. Mais après ça, on voit très bien que les atrocités ont augmenté, ou en tout cas sont encore là, avec des craintes sérieuses. Est-ce que 9 ans après, contrairement à l'optimisme que vous avez montré dans votre discours du début de ce matin, est-ce que ce n'est pas une espèce d'échec quand même, 9 ans après, qu'on ait encore des atrocités en République démocratique du Congo et la peur de l'insécurité est toujours permanente?
La voie vers la paix, la sécurité, ou vers une prospérité partagée entre la RDC et les autres pays de la région des Grands Lacs, il ne s'agirait jamais là d'une ligne directe, sans accroc, sans obstacle.
Hong Xiang, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
En plus bref, vit au sein de la MONUSCO, la mission onusienne a un nouveau représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire. Il s'agit de Monsieur Bruno Lemarquis. Il est arrivé lundi 28 mars dernier à Kinshasa. Monsieur Bruno Lemarquis vient de Haïti, où il a assumé les mêmes fonctions. De nationalité française, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agriculture tropicale du Centre national d'études des régions chaudes à Montpellier. Au sud Kivu, allons précisément à Uvira avec la MONUSCO encore. Un tournoi de football scolaire a été organisé le 24 février 2022 par la section conduite et discipline de la mission en partenariat avec les réseaux communautaires locaux. Une rencontre initiée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de jeunes filles contre des potentielles exploitations et abus sexuels de la part du personnel des Nations Unies. Des élèves de plusieurs écoles secondaires d'Ouvira ont été invités à ce tournoi et eu l'occasion d'être outillés à la prévention des crimes contre lesquels l'ONU pratique la politique de tolérance zéro. Covid-19 dans les camps de réfugiés. À travers son partenaire ACTED, le HCR a construit 9 blocs de latrines dans le centre d'isolement, de quarantaine et de santé de camp Covid-19 à Bili, Inke, Molé et Boyabou dans les provinces du nord et du sud d'Ubangi. L'agence onusienne qui donne cette information rappelle qu'à travers un autre partenaire, ADES, elle a lancé la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les réfugiés burundais et les communautés d'accueil au sud Kivu, notamment en mettant 5000 doses de vaccins à la disposition de l'hôpital de Nundu et au poste de santé du camp de réfugiés de Lucinda.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je l'ai annoncé dans le sommaire, l'invité de ce magazine est Mathilde Miigo. Elle est spécialiste de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle vient d'obtenir le prix Femme Avenir, édition 2022, décerné en Espagne pour récompenser les femmes engagées dans la lutte de la promotion des droits des femmes. Mathilde Miigo a été interviewée par Fulbert Balolagué.
Mathilde Miigo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous venez de recevoir le prix Femme Avenir 2022 et au moment de recevoir ce prix, quel est votre sentiment de le recevoir surtout au mois de mars?
Merci beaucoup monsieur le journaliste. Pour moi, recevoir ces prix, c'est d'abord un honneur, un très grand honneur, mais surtout une responsabilité. Je pense que c'est vraiment un appel à moi pour poursuivre la lutte aux côtés des femmes, la lutte pour le droit de l'homme en général, la lutte pour le droit de femmes en particulier. Donc c'est un engagement que je pris depuis déjà une dizaine d'années, d'accompagner les femmes dans la lutte pour la protection de leurs droits et surtout pour leur participation dans toutes les instances de prise de décision et surtout dans toutes les initiatives qui visent des actions de protection et de participation pour la mise en œuvre effective de leurs droits.
Comment expliquez-vous votre engagement jusqu'à recevoir ces prix? Comment vous expliquez ça?
Je dirais tout d'abord que cet engagement en moi est né du fait que j'ai vécu pendant des périodes dans des environnements où j'ai vu que les femmes n'avaient pas assez de place pour exprimer ce qu'elles ressentaient au fond. et surtout de femmes qui avaient été victimes de plusieurs violations de leurs droits, de plusieurs cas de violences sexuelles, de plusieurs cas de violences basées sur le genre et surtout de violences conjugales. Mais ce qui m'a beaucoup motivée à travailler aux côtés de ces femmes, c'était le courage, c'était la résilience, c'était la détermination avec laquelle elles ont pu affronter toutes les atrocités par lesquelles elles sont passées. Donc cet engagement pour moi, c'était une façon de renforcer les efforts de ces femmes, parce que je me suis dit, ce n'est pas tant les violations par lesquelles elles sont passées qui pourrait constituer la pierre angulaire, mais c'est surtout cette détermination, ce courage et la résilience avec laquelle elles ont affronté, elles ont pu vivre avec tout ce qu'elles ont vécu, mais le courage de travailler aux côtés de moi pour essayer de limiter les cas de violence, pour essayer de limiter la souffrance autour d'elles. C'est vraiment cela qui m'a motivée à poursuivre cette lutte et je me suis dit pourquoi ne pas accompagner ces femmes pour renforcer, continuer à renforcer leur capacité de résilience, leur courage, leur détermination pour que cela n'arrive plus aux autres et pour qu'elles soient aussi l'épaule sur laquelle les autres qui pourraient être passés par là puissent se reposer et puissent trouver consolation. Donc c'est le courage, la détermination de toutes les victimes, de toutes les survivantes qui m'a poussé vraiment à les accompagner et à continuer à les encourager pour continuer la route ensemble.
Alors, nous sommes au mois de mars, un mois dédié aux femmes. Quel est le message pour toutes les femmes en rapport avec ce mois de mars et en rapport aussi à tout ce que vous faites?
Voilà, pour le mois de mars, je pense que le message c'est les femmes sont fortes. Les femmes sont courageuses au-delà même de ce qu'on peut espérer, mais beaucoup plus un appel aux hommes pour s'adjoindre à nous, pour nous accompagner, à mettre en œuvre toutes les actions qui visent la promotion des droits de femmes et la protection des droits de femmes. Parce que sans l'engagement de l'homme, on ne pourrait pas y arriver. Mais avec les hommes qui prônent la masculinité positive, cela va nous aider à pouvoir cheminer ensemble pour effectivement promouvoir et protéger le droit de la femme. Et en ce mois où le thème a un lien avec la protection de l'environnement
et l'avenir aussi.
Voilà, et l'avenir aussi. On pense que les femmes sont effectivement des actrices primordiales dans cette lutte pour la protection de l'environnement et surtout pour la protection des droits de l'homme et des droits de femmes en général. Et surtout, les droits des jeunes filles qui sont une élite montante qu'on doit aussi accompagner pour devenir des leaders communautaires, des leaders de la communauté congolaise.
Alors, si vous devez vous présenter auprès des auditeurs, des gens qui ne vous connaissent pas et qui voudront bien comprendre votre parcours, comment pouvez-vous présenter Mathilde Mihigo?
Voilà, je suis Mathilde Mihigo Ntakobajira. Je suis licenciée en droit de l'Université catholique de Bukavu. Je suis épouse et mère de 3 enfants. Et j'ai commencé à travailler en tant qu'humanitaire à la Caritas Développement Bukavu. Et après, j'ai suivi mon parcours avec le CRS, Catholic Relief Services. Et aujourd'hui, je suis officier de droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au sein de la MONUSCO Bukavu. Donc, c'est mon parcours professionnel et mon engagement aux côtés des femmes et des populations vulnérables a commencé effectivement avec les différentes guerres et les différentes atrocités dont le site Kivu a été victime pendant des décennies. Et cela m'a permis de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants qui sont passés par ces atrocités. Et c'est ce qui a relevé en moi ce souci de pouvoir travailler aux côtés de communautés locales, à pouvoir m'engager aux côtés des femmes, non seulement vulnérables, mais aussi fortes, résilientes et surtout déterminées et courageuses. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine de droits de l'homme, de protection des droits de femmes et de la jeune fille, et surtout de la cohésion sociale, la consolidation de la paix en RDC et au Sud Kivu en particulier.
Alors, ça c'est un parcours professionnel où on voit juste les bons côtés. N'y a-t-il pas de difficultés que vous rencontrez dans votre carrière?
Bien sûr, bien sûr. tout d'abord les zones dans lesquelles nous travaillons. Ce n'est pas seulement des environnements urbains, c'est surtout des environnements ruraux où voilà, il y a encore de l'activisme de groupes armés. Et c'est là, c'est un défi majeur pour nous. Lorsque vous devez sensibiliser les personnes sur leurs droits, mais qu'elles n'ont pas vraiment assez de liberté pour exprimer leurs droits à cause voilà, de cet activisme de groupes armés. Et après, il y a aussi des difficultés, la pesanteur coutumière, qui sont aussi un défi qui empêche encore les femmes d'exprimer librement leurs opinions, d'exprimer librement leur point de vue. Et c'est là, c'est vraiment des difficultés auxquelles on se bute, surtout dans les villages vraiment du fin fond de la RDC. Aussi, il y a des difficultés d'accessibilité, de routes inexistantes. Il y a des villages que nous avons faits à pied, à moto, par des véhicules. On a passé même de nuit en plein forêt. Et cela, c'est vraiment des zones difficiles, mais ne nous a pas empêchés de continuer, de poursuivre la lutte. Et nous savons d'ailleurs que c'est ces villages, c'est ces endroits qui ont plus besoin de nos actions, plus besoin de notre accompagnement. Et c'est là même que vous trouvez des femmes fortes qui sont déterminées à travailler pour essayer de faire sortir les autres femmes de l'ignorance lorsqu'elles ont la possibilité d'accéder à l'information plus vite que les autres.
Mathilde Mihigo, merci.
Merci à vous aussi.
Le partenariat est au beau fixe entre la police nationale congolaise PNC et la police de la MONUSCO UNPOL, constat fait par le général Philemon Mouchidiaf, commandant adjoint de la police administrative en mission d'évaluation dans la région de Beni. Le commissaire général adjoint de la PNC a salué les actions de la police de la MONUSCO aux côtés de la police nationale congolaise après sa rencontre avec Madame Cecilia Piazza, chef de bureau MONUSCO de Beni Butembo Lubero, au quartier général de la mission à Boïkéné. C'était mardi dernier. Suivez un extrait de la déclaration de l'officier supérieur de la PNC au micro de Marc Marofimbo.
La MONUSCO et l'UNPOL sont des grands partenaires de la police nationale congolaise. Dès le premier jour de leur arrivée ici au pays, jusqu'à aujourd'hui, si nous voulons parler de tous les biens qu'ils ont fait, l'appui à la police nationale, étant un ancien élément de la police anti-émeute, police d'intervention rapide, la MONUSCO a travaillé avec nous. Elle a recyclé les éléments anti-émeute de la police nationale. La MONUSCO a posé des jalons partout. Sur le plan infrastructure, n'en parlons pas. Dotation de charrois à d'autres unités, n'en parlons pas. C'est-à-dire, la MONUSCO, il a tout fait ce qu'il devait faire à côté de la police. Et nous remercions ces comportements-là. Et nous demandons encore à la MONUSCO d'aller plus loin, puisque nous avons encore besoin d'eux, de leur appui. D'ailleurs, je viens de voir ici, au niveau de la ville de Beni, il y a une bonne collaboration entre le commandant Siat Urbain et la MONUSCO Beni.
Notez que la situation sécuritaire dans la région de Beni Butembo Lubero et la responsabilité de la police dans le maintien de l'ordre public ont été aussi au centre de la rencontre avec le général Philemon Mouchidiaf.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
20 ans de Radio Okapi, c'était la semaine dernière. Cette radio est née le jour de l'ouverture du dialogue intercongolais de Sun City. Et ce média a tout de suite été accepté par tous les belligérants de l'époque. Quel était le secret? Réponse de Léonard Moulamba, qui était le plus haut cadre congolais de la rédaction.
Oui, c'est normal, oui. Parce que le média gouvernemental, par exemple, ne pouvait pas faire passer voilà. Le point de vue de quelqu'un du MRC ou du RCD. Nous, on pouvait faire passer tous ces gens-là. Tout comme aussi la radio du MLC ne pouvait pas faire passer quelqu'un du gouvernement. Voilà. Ainsi de suite, le RCD, c'était la même chose. Nous, on était vraiment, comme on dit, l'église
au milieu du village.
On l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. On continue à faire ce travail avec impartialité.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez dans vos agendas cet événement mondial attendu la semaine qui commence, la Journée internationale des femmes. Elle est célébrée le 8 mars et cette année, ce sera sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Et c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un mot. Je suis Babel Pongo Massimango. J'étais à la présentation avec le concours technique de Mimi Kindou. Cette émission a été produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de votre attention et restez branchés pour la suite des programmes sur la Radio de la Paix.